Chapitre 15, la leçon, la pénitente. L'escrime n'était point à l'époque dont nous essayons non seulement de raconter les événements, mais encore de peindre les mœurs et les habitudes, ce qu'elle est aujourd'hui. Les épées tranchantes des deux côtés faisaient que l'on frappait presque aussi souvent de taille que de la pointe. En outre, la main gauche, armée d'une dague, était à la fois défensive et offensive. Il en résultait une foule de blessures, ou plutôt d'égratignures, qui étaient, dans un combat réel, un puissant motif d'excitation. Caylus, perdant son sang par 18 blessures, se tenait debout encore, continuait de combattre, et ne fut pas tombé si une 19e blessure ne l'eût couché dans le lit qu'il ne quitta plus que pour le tombeau. L'escrime, apportée d'Italie, mais encore dans l'enfance de l'art, consistait donc à cette époque dans une foule d'évolutions qui déplaçait considérablement le tireur et devait, sur un terrain choisi par le hasard, rencontrer une foule d'obstacles dans les moindres accidents du sol. Il n'était point rare de voir le tireur s'allonger, se raccourcir, sauter à droite, sauter à gauche, appuyer une main à terre. L'agilité non seulement de la main, mais encore des jambes, mais de tout le corps, devait être une des premières conditions de l'art. Chicot ne paraissait pas avoir appris l'escrime à cette école. On eût dit au contraire qu'il avait pressenti l'art moderne, dont toute la supériorité et surtout toute la grâce, qui est dans l'agilité des mains et la presque immobilité du corps. Il se posa droit et ferme sur l'une et l'autre jambe, avec un poignet souple et nerveux à la fois, avec une épée qui semblait un jonc flexible et pliant depuis la pointe jusqu'à la moitié de la lame, et qui était d'un inflexible acier depuis la garde jusqu'au milieu. Aux premières passes, et voyant devant lui cet homme de bronze, dont le poignet seul semblait vivant, frère Jacques eut des impatiences de fer qui ne produisirent sur Chicot d'autre effet que de faire détendre son bras et sa jambe au moindre jour qu'il apercevait dans le jeu de son adversaire. Et l'on comprend qu'avec cette habitude de frapper autant d'estoc que de pointe, ses jours étaient fréquents. À chacun de ces jours, ce grand bras s'allongeait donc de 3 pieds et poussait droit dans la poitrine du frère un coup de bouton aussi méthodique que si un mécanisme l'eût dirigé et non un organe de chair incertain et inégal. À chacun de ces coups de bouton, Jacques, rouge de colère et d'émulation, faisait un bond en arrière. Pendant 10 minutes, l'enfant déploya toutes les ressources de son agilité prodigieuse. Il s'élançait comme un chat-tigre, il se repliait comme un serpent, il se glissait sous la poitrine de Chicot, bondissait à droite et à gauche. Mais celui-ci, avec son air calme et son grand bras, saisissait son temps et, tout en écartant le fleuret de son adversaire, envoyait toujours le terrible bouton à son adresse. Frère Borromée pâlissait du refoulement de toutes les passions qu'il avait surexcitées naguère. Enfin Jacques se rua une dernière fois sur Chicot, qui, le voyant mal d'aplomb sur ses jambes, lui présenta un jour pour qu'il se fendît à fond. Jacques n'y manqua point, et Chicot, parant avec raideur, écarta le pauvre élève de la ligne d'équilibre à tel point qu'il perdit contenance et tomba. Chicot, immobile comme un roc, était resté à la même place. Frère Borromée se rongeait les doigts jusqu'au sang. « Vous ne m'aviez pas dit, monsieur, que vous étiez un pilier de salle d'armes, dit-il. « Oui, s'écria Gorenflot ébahi, mais triomphant par un sentiment d'amitié facile à comprendre. « Lui, il ne sort jamais. « Moi, un pauvre bourgeois, dit Chicot, moi, Robert Briquet, un pilier de salle d'armes. Ah, oh, monsieur le trésorier !»« Mais enfin, monsieur, s'écria frère Borromée, pour manier une épée, comme vous le faites, il faut avoir énormément exercé. « Mon Dieu, oui, monsieur, répondit Chicot avec bonhomie, j'ai en effet tenu quelquefois l'épée, mais en la tenant, j'ai toujours vu une chose. « Laquelle ?» C'est que, pour celui qui la tient, l'orgueil est un mauvais conseiller, et la colère un mauvais aide. Maintenant, écoutez, mon petit frère Jacques, ajouta-t-il, vous avez un joli poignet, mais vous n'avez ni jambes ni tête. Vous êtes vif, mais vous ne raisonnez pas. Il y a dans les armes trois choses essentielles. La tête d'abord, puis la main et les jambes. Avec la première, on peut se défendre. Avec la première et la seconde, on peut vaincre. Mais en réunissant les trois, on vainc toujours. Oh, monsieur, dit Jacques, faites donc un saut avec frère Borromée, ce sera certainement bien beau à voir. Chicot, dédaigneux, allait refuser la proposition, mais il réfléchit que peut-être l'orgueilleux trésorier en prendrait-il avantage. Soit, dit-il, si frère Borromée y consent, je suis à ses ordres. Non, monsieur, répondit le trésorier, je serai battu, j'aime mieux l'avouer que de faire preuve. Oh, qu'il est modeste, qu'il est aimable, dit Gorenflot. Tu te trompes, lui répondit à l'oreille l'impitoyable Chicot. Il est fou de vanité. À son âge, si j'eusse trouvé pareille occasion, j'eusse demandé à genoux la leçon que Jacques vient de recevoir. Cela dit, Chicot reprit son gros dos, ses jambes circonflexes, sa grimace éternelle, et revint s'asseoir sur son banc. Jacques le suivit. L'admiration l'emportait chez le jeune homme sur la honte de la défaite. Ah, donnez-moi donc des leçons, monsieur Robert, disait-il. Le seigneur prieur le permettra, n'est-ce pas, votre révérence? Oui, mon enfant, répondit Gorenflot, avec plaisir. Je ne veux point marcher sur les brisées de votre maître, mon ami, dit Chicot. Et il salua Borromée. Borromée prit la parole. Je ne suis pas le seul maître de Jacques, dit-il. Je n'enseigne pas seul les armes ici. N'ayant pas seul l'honneur, permettez que je n'aie pas seul la défaite. Qui est donc son autre professeur? Se hâta de demander Chicot, voyant chez Borromée la rougeur qui décelait la crainte d'avoir commis une imprudence. Personne, reprit Borromée, personne. Et si fait, dit Chicot, j'ai parfaitement entendu. Quel est donc votre autre maître, Jacques? Oui, dit Gorenflot, un gros court que vous m'avez présenté, Borromée, et qui vient ici quelquefois une bonne figure, et qui boit agréablement. Je ne me rappelle plus son nom, dit Borromée. Frère Zeb, avec sa mine béate et son couteau passé dans sa ceinture, s'avança niaisement. Je le sais, moi, dit-il. Borromée lui fit des signes multipliés qu'il ne vit pas. Ce maître Bussy-Leclerc, continua-t-il, lequel a été professeur d'armes à Bruxelles. Ah, oui, da, fit Chicot, maître Bussy-Leclerc a une bonne lame, ma foi. Et tout en disant cela, avec toute la naïveté dont il était capable, Chicot attrapait au passage le coup d'œil furibond que dardait Borromée sur le malencontreux complaisant. Tiens, je ne savais pas qu'il s'appela Bussy-Leclerc. On avait oublié de m'en informer, dit Gorenflot. Je n'avais pas cru que le nom intéressât le moins du monde votre seigneurie, dit Borromée. En effet, reprit Chicot, un maître d'armes ou un autre, pourvu qu'il soit bon, n'importe. En effet, n'importe, reprit Gorenflot, pourvu qu'il soit bon. Et là-dessus, il prit le chemin de l'escalier de son appartement, escorté de l'admiration générale. L'exercice était terminé. Au pied de l'escalier, Jacques retira sa demande à Chicot, au grand déplaisir de Borromée, mais Chicot répondit, je ne sais pas démontrer, mon ami, je me suis fait tout seul avec de la réflexion et de la pratique. Faites comme moi, à tout saint esprit, le bien profite. Borromée commanda un mouvement qui tourna tous les moines vers les bâtiments pour la rentrée. Gorenflot s'appuya sur Chicot et monta majestueusement l'escalier. J'espère, dit-il avec orgueil, que voilà une maison dévouée au service du roi et bonne à quelque chose, hein? Peste, je le crois bien, dit Chicot. On en voit de belles, révérend prieur, lorsque l'on vient chez vous. En un mois, tout cela, en moins d'un mois même. Et fait par vous, fait par moi seul, comme vous voyez, dit Gorenflot en se redressant. Oh, c'est plus que je n'attendais, mon ami, et quand je reviendrai à ma mission. Ah, c'est vrai, cher ami, parlons donc de votre mission. D'autant plus volontiers que j'ai un message, ou plutôt un messager à envoyer au roi avant mon départ. Au roi, cher ami, un messager, vous correspondez donc avec le roi directement, et il vous faut un messager, dites-vous. Il me faut un messager. Voulez-vous un de nos frères? Ce serait un honneur pour le couvent si un de nos frères voyait le roi. Assurément. Ah, je vais mettre deux de nos meilleures jambes à vos ordres, mais contez-moi, Chicot, comment le roi, qui vous croyait mort, je vous l'ai déjà dit, je n'étais qu'en léthargie, et au moment venu, j'ai ressuscité. Et pour rentrer en faveur, demanda Gorenflot. Oh, plus que jamais, dit Chicot. Alors, fit Gorenflot, en s'arrêtant, vous pourrez donc dire au roi tout ce que nous faisons ici dans son intérêt. Je n'y manquerai pas, mon ami, je n'y manquerai pas, soyez tranquille. Oh, cher Chicot, s'écria Gorenflot, qui se voyait évêque. Mais d'abord, j'ai deux choses à vous demander. Lesquelles? La première, de l'argent que le roi vous rendra. Oh, de l'argent! S'écria Gorenflot en se levant avec précipitation. J'en ai plein mes coffres. Vous êtes bien heureux, par ma foi, dit Chicot. Voulez-vous 1 000 écus? Non pas, c'est beaucoup trop, cher ami. Je suis modeste dans mes goûts, humble dans mes désirs. Mon titre d'ambassadeur ne m'enorgueillit pas, et je le cache plutôt que je ne m'en vante. 100 écus me suffiront. Les voilà. Et la seconde chose, un écuyer. Un écuyer? Oui, pour m'accompagner. J'aime la société, moi. Ah, mon ami, si j'étais encore libre comme autrefois, dit Gorenflot en poussant un soupir. Oui, mais vous ne l'êtes plus. La grandeur m'enchaîne, murmura Gorenflot. Hélas, dit Chicot, on ne peut pas tout faire à la fois. Ne pouvant avoir votre honorable compagnie, très cher prieur, je me contenterai donc de celle du petit frère Jacques. Du petit frère Jacques? Oui, il me plaît, le gaillard. Tu as raison, Chicot, c'est un sujet rare et qui ira loin. Je vais d'abord le mener à 250 lieues, moi, si tu me l'accordes. Oh, il est à toi, mon ami. Le prieur frappa sur un timbre, au bruit duquel accourut un frère servant. Qu'on fasse monter le frère Jacques et le frère chargé des courses de la ville. 10 minutes après, tous deux parurent sur le seuil de la porte. Jacques, dit Gorenflot, je vous donne une mission extraordinaire. À moi, monsieur le prieur? Demanda le jeune homme étonné. Oui, vous allez accompagner monsieur Robert Briquet dans un grand voyage. Oh! S'écria dans un enthousiasme nomade le jeune frère, moi en voyage avec monsieur Briquet, moi au grand air, moi en liberté. Ah, monsieur Robert Briquet, nous ferons des armes tous les jours, n'est-ce pas? Oui, mon enfant. Et je pourrai emporter mon arquebuse? Tu l'emporteras. Jacques bondit et s'élança hors de la chambre avec des cris de joie. Quant à la commission, dit Gorenflot, je vous prie de donner des ordres. Avancez, frère Panurgin. Panurge, dit Chicot, à qui ce nom rappelait des souvenirs qui n'étaient pas exempts de douceur. Panurge. Hélas, oui, fit Gorenflot, j'ai choisi ce frère qui s'appelle comme l'autre, Panurge, pour lui faire les courses que l'autre faisait. Il est donc hors de service, notre ancien ami. Il est mort, dit Gorenflot, il est mort. Oh, fit Chicot avec commisération, le fait est qu'il devait se faire vieux. 19 ans, mon ami, il avait 19 ans. C'est un fait de longévité remarquable, dit Chicot. Il n'y a que les couvents pour offrir de pareils exemples. Panurge, ainsi annoncé par le prieur, se montra bientôt. Ce n'était certes pas en raison de sa configuration morale ou physique qu'il avait été admis à remplacer son défunt homonyme, car jamais figure plus intelligente n'avait été déshonorée par l'application d'un nom d'âne. C'était à un renard que ressemblait frère Panurge, avec ses petits yeux, son nez pointu et sa mâchoire en avant. Chicot le regarda un instant, et pendant cet instant, si court qu'il fût, il parut avoir apprécié à sa valeur le messager du couvent. Panurge resta humblement auprès de la porte. Venez là, monsieur le courrier, dit Chicot, connaissez-vous le Louvre? Mais oui, monsieur, répondit Panurge. Et dans le Louvre, connaissez-vous un certain Henri de Valois? Le roi? Je ne sais pas si c'est bien le roi, en effet, dit Chicot, mais enfin, on a l'habitude de le nommer ainsi. C'est au roi que j'aurai affaire. Justement, le connaissez-vous? Beaucoup, monsieur Briquet. Eh bien, vous demanderez à lui parler. On me laissera arriver jusqu'à son valet de chambre, oui. Votre habit est un passeport. Sa majesté est fort religieuse, comme vous savez. Et que dirai-je au valet de chambre de sa majesté? Vous direz que vous êtes envoyé par l'ombre. Par quelle ombre? La curiosité est un vilain défaut, mon frère. Pardon. Vous direz donc que vous êtes envoyé par l'ombre, oui, et que vous attendez la lettre. Quelle lettre? Encore? Ah, c'est vrai. Mon révérend, dit Chicot en se tournant vers Gorenflot, décidément j'aimais mieux l'autre Panurge. Parfaitement. Voilà tout ce qu'il y a à faire, demanda le courrier. Vous ajouterez que l'ombre attendra en suivant tout doucement la route de Charenton. C'est sur cette route que j'aurai à vous rejoindre alors. Parfaitement. Panurge s'achemina vers la porte et souleva la portière pour sortir. Il sembla à Chicot qu'en accomplissant ce mouvement, frère Panurge avait démasqué un écouteur. Au reste, la portière retomba si rapidement que Chicot n'eut pas pu répondre que ce qu'il prenait pour une réalité n'était pas une vision. L'esprit subtil de Chicot le conduisit bien vite à la presque certitude que c'était frère Borromée qui écoutait. « Ah, tu écoutes, pensa-t-il, tant mieux, en ce cas, je vais parler pour toi. » Ainsi, dit Gorenflot, vous voilà honoré d'une mission du roi, cher ami. Confidentiel, oui. Qui a rapport à la politique, je présume. Et moi aussi. Comment, vous ne savez pas de quelle mission vous êtes chargé? Je sais que je porte une lettre, voilà tout. Un secret d'État, sans doute. Je le crois. Et vous ne vous doutez pas? Nous sommes assez seuls pour que je puisse dire ce que je pense, n'est-ce pas? Dites, je suis un tombeau pour les secrets. Eh bien, le roi s'est enfin décidé à secourir le duc d'Anjou. En vérité? Oui, monsieur de Joyeuse a dû partir cette nuit pour cela. Mais vous, mon ami? Moi, je vais du côté de l'Espagne. Et comment voyagez-vous? Les diables, comme nous faisions autrefois, à pied, à cheval, en chariot, selon que cela se trouvera. Ah, Jacques vous sera d'une bonne compagnie pour le voyage, et vous avez bien fait de le demander. Il comprend le latin, le petit drôle. J'avoue, quant à moi, qu'il me plaît fort. Ah, cela suffirait pour que je vous le donnasse, mon ami, mais je crois en outre qu'il vous serait un rude second en cas de rencontre. Merci, cher ami. Maintenant, je n'ai plus, je crois, qu'à vous faire mes adieux. Adieu. Que faites-vous? Mais je m'apprête à vous donner ma bénédiction. Bah, entre nous, dit Chicot, inutile. Oh, vous avez raison, répliqua Gorenflot, c'est bon pour des étrangers. Et les deux amis s'embrassèrent tendrement. Jacques, cria le prieur, Jacques! Panurge montra son visage de fouine entre les deux portières. « Quoi, vous n'êtes pas encore parti ?» s'écria Chicot. « Pardon, monsieur. »« Partez vite, » dit Gorenflot. « Monsieur Briquet est pressé. Où est Jacques ?» Le frère Borromée apparut à son tour, l'air doucereux et la bouche riante. « Frère Jacques !» répéta le prieur. « Frère Jacques est parti, » dit le trésorier. « Et comment parti ?» N'avez-vous pas désiré que quelqu'un allât au Louvre, monsieur? C'était frère Panurge, dit Gorenflot. Oh, sot que je suis, j'avais entendu Jacques, dit Borromée en se frappant le front. Chicot fronça le sourcil, mais le regret de Borromée était en apparence si sincère qu'un reproche eût paru cruel. J'attendrai donc, dit-il, que Jacques soit revenu. Borromée s'inclina en fronçant le sourcil à son tour. À propos, dit-il, j'oubliais d'annoncer au seigneur prieur, et j'étais même monté pour cela, que la dame inconnue vient d'arriver et qu'elle désire obtenir audience de votre révérence. » Chico ouvrit des oreilles immenses. « Eux seuls ? » demanda Goronflot. « Avec un écuyer. »« Est-elle jeune ?» demanda Goronflot. Borromée baissa pudiquement les yeux. « Bon, il est hypocrite, » pensa Chico. « Elle paraît encore jeune, » dit Borromée. « Mon ami, » dit Goronflot en se tournant du côté du faux Robert Briquet, « tu comprends ?»« Je comprends, » dit Chico, « et je vous laisse. J'attendrai dans une chambre voisine ou dans la cour. »« Ah, c'est cela, mon cher ami. » « Il y a loin d'ici au Louvre, monsieur, » fit observer Borromée, « et frère Jacques peut tarder beaucoup, d'autant plus que la personne à laquelle vous écrivez hésitera peut-être à confier une lettre d'importance à un enfant. Vous faites cette réflexion un peu tard, frère Borromée. Dame, je ne savais pas si l'on m'eût confié... c'est bien, je vais me mettre en route à petits pas vers Charenton. L'envoyé, quel qu'il soit, me rejoindra sur le chemin. » Et il se dirigea vers l'escalier. « Par ce côté, monsieur, s'il vous plaît, » dit vivement Borromée, « la dame inconnue monte par là et elle désire bien ne rencontrer personne. » « Vous avez raison, » dit Chico en souriant, « je prendrai par le petit escalier. » Et il s'avança vers une porte de dégagement donnant dans un petit cabinet. « Et moi, » dit Borromée, « je vais avoir l'honneur d'introduire la pénitente près du révérend prieur. »« C'est cela, » dit Goronflot. « Vous savez le chemin ?» demanda Borromée avec inquiétude. « À merveille !» Et Chico sortit par le cabinet. Après ce cabinet venait une chambre, l'escalier dérobé donnait sur le palier de cette chambre. Chico avait dit vrai, il connaissait le chemin, mais il ne connaissait plus la chambre. En effet, elle était bien changée depuis sa dernière visite. De pacifique qu'elle l'était, elle s'était faite belliqueuse. Les parois des murailles étaient tapissées d'armes, les tables et les consoles étaient chargées de sabres, d'épées et de pistolets. Tous les angles contenaient un nid de mousquets et d'arquebuses. Chico s'arrêta un instant dans cette chambre. Il éprouvait le besoin de réfléchir. « On me cache Jacques, on me cache la dame, on me pousse par les petits degrés pour laisser le grand escalier libre. Cela veut dire que l'on veut m'éloigner du moignon et me cacher la dame, c'est clair. Je dois donc, en bonne stratégie, faire exactement le contraire de ce que l'on désire que je fasse. » En conséquence, j'attendrai le retour de Jacques et je me posterai de manière à voir la dame mystérieuse. Oh, voici une belle chemise de maille jetée dans ce coin, souple, fine et d'une trempe exquise. Il la souleva en l'admirant. Ah, justement, j'en cherchais une, dit-il, légère comme du lin, trop étroite de beaucoup pour le prieur. En vérité, on dirait que c'est pour moi que cette chemise a été faite. « Empruntons-la donc à Don Modeste, je la lui rendrai à mon retour. » Et Chico plia prestement la tunique qu'il glissa sous son pourpoint. Il attachait la dernière aiguillette quand frère Borromée parut sur le seuil. « Oh !» murmura Chico, « encore toi, mais tu arrives trop tard, l'ami. » Et croisant ses grands bras derrière son dos et se renversant en arrière, Chico fit comme s'il admirait les trophées. « Monsieur Robert Briquet cherche quelque arme à sa convenance ?» demanda Borromée. « Mon cher ami, » dit Chico, « pourquoi faire, mon Dieu, une arme ?»« Dame, quand on s'en sert si bien... »« Théorie, cher frère, théorie, voilà tout. Un pauvre bourgeois comme moi peut être adroit de ses bras et de ses jambes, mais ce qui lui manque, ce qui lui manquera toujours, c'est le cœur d'un soldat. Le fleuret brille assez élégamment dans ma main, mais Jacques, croyez-le bien, me ferait rompre d'ici à Charenton avec la pointe d'une épée. « Vraiment ?» fit Borromée, à demi convaincu par l'air si simple et si bonhomme de Chico, lequel, disons-le, venait de se faire plus bossu, plus torse et plus louche que jamais. « Et puis, le souffle me manque, » continua Chico. « Vous avez remarqué que je ne puis pas rompre. Les jambes sont exécrables. Voilà surtout mon défaut. » Et me permettez-vous de vous faire observer, monsieur, que ce défaut est encore plus grand pour voyager que pour faire les armes. Ah, vous savez que je voyage, répondit négligemment Chicot. Panurge me l'a dit, répliqua Borromée en rougissant. Tiens, c'est drôle, je ne croyais pas avoir parlé de cela à Panurge. Mais qu'importe, je n'ai pas de raison de me cacher. Oui, mon frère, je fais un petit voyage, je vais dans mon pays où j'ai du bien. Savez-vous, monsieur Briquet, que vous procurez un bien grand honneur au frère Jacques? Celui de m'accompagner, d'abord, mais ensuite de voir le roi ou son valet de chambre, car il est possible et même probable que frère Jacques ne verra pas autre chose. Vous êtes donc un familier du Louvre? Oh, un des plus familiers, monsieur, c'est moi qui fournissais le roi et les jeunes seigneurs de la cour de bas drapé. Le roi? Oh, j'avais déjà sa pratique, qu'il n'était encore que duc d'Anjou. À son retour de Pologne, il s'est souvenu de moi et m'a fait fournisseur de la cour. C'est une belle connaissance que vous avez là, monsieur Briquet. La connaissance de Sa Majesté? Oui. Tout le monde ne dit point cela, frère Borromée. Oh, les ligueurs. Tout le monde l'est peu ou prou aujourd'hui. Vous l'êtes peu, vous, à coup sûr. Moi, pourquoi cela? Quand on connaît personnellement le roi, j'ai ma politique comme les autres, fit Chicot. Oui, mais votre politique est en harmonie avec celle du roi. Oh, ne vous y fiez pas, nous nous disputons souvent. Si vous disputez, comment vous confie-t-il une mission? Une commission, vous voulez dire? Mais mission ou commission, peu importe, l'une ou l'autre implique confiance. Peu, pourvu que je sache bien prendre mes mesures, voilà tout ce qu'il faut au roi. Vos mesures? Oui. Mesures politiques, mesures de finances? Non, mesures d'étoffe. Comment, fit Borromée stupéfait. Sans doute, vous allez comprendre. J'écoute. Vous savez que le roi a fait un pèlerinage à Notre-Dame de Chartres. Oui, pour obtenir un héritier. Et justement, vous savez qu'il y a un moyen sûr d'arriver au résultat que poursuit le roi. Il paraît en tout cas que le roi n'emploie pas ce moyen. Frère Borromée, fit Chicot, quoi? Vous savez parfaitement qu'il s'agit d'obtenir un héritier de la couronne, par miracle, et non autrement. Et ce miracle, on le demande à Notre-Dame de Chartres. Ah oui, la chemise. Allons donc, c'est cela. Le roi lui a pris sa chemise à cette bonne Notre-Dame et l'a donnée à la reine, de sorte qu'en échange de cette chemise, il veut lui donner une robe pareille à celle de Notre-Dame de Tolède, qui est, dit-on, la plus belle et la plus riche robe de vierge qui existe au monde. De sorte que vous allez à Tolède, cher frère Borromée, à Tolède, prendre mesure de cette robe et en faire faire une pareille. Borromée parut hésiter s'il devait croire ou ne pas croire Chicot sur parole. Après de mûres réflexions, nous sommes autorisés à penser qu'il ne le crut pas. Vous jugez donc, continua Chicot, comme s'il ignorait entièrement ce qui se passait dans l'esprit du frère trésorier, vous jugez donc que la compagnie des hommes d'église m'eût été fort agréable en pareille circonstance. Mais le temps passe et le frère Jacques ne peut tarder maintenant. Au surplus, je vais l'attendre dehors, à la Croix-Faubin, par exemple. Je crois que cela vaut mieux, dit Borromée. Vous aurez donc la complaisance de le prévenir aussitôt de mon arrivée? Oui, et vous me l'enverrez. Je n'y manquerai pas. Ah, merci, cher frère Borromée, enchanté d'avoir fait votre connaissance. Tous deux s'inclinèrent. Chicot sortit par le petit escalier. Derrière lui, frère Borromée ferma la porte au verrou. Allons donc, dit Chicot, il est important, à ce qu'il paraît, que je ne vois pas la dame, il s'agit donc de la voir. Et pour mettre ce projet à exécution, Chicot sortit du prieuré des Jacobins le plus ostensiblement possible, causa un instant avec le frère portier et s'achemina vers la Croix-Faubin en suivant le milieu de la route. Seulement, arrivé à la Croix-Faubin, il disparut à l'angle du mur d'une ferme, et là, sentant qu'il pouvait défier tous les argus du prieur, eussent-ils des yeux de faucon comme Borromée, Il se glissa le long des bâtiments, suivit dans un fossé une haie qui faisait retour, et gagna, sans avoir été aperçu, une charmille assez bien garnie qui s'étendait juste en face du couvent. Arrivé à ce point qui lui présentait un centre d'observation tel qu'il le pouvait désirer, il s'assit, ou plutôt se coucha, et attendit que frère Jacques rentrât au couvent et que la dame en sortît.